S'il y a une chose qui marque dans l'exposition du Louvre consacrée à Léonard de Vinci, c'est tout ce qu'on n'y voit pas, étrangement, tout ce qu'il reste à imaginer, les œuvres qu'on n'a pas pu récupérer, dont on ne verra que des esquisses ou des schémas, les mystères qui entourent sa vie malgré la somme incalculable d'écrits, de récits, de mythologies autour de lui, et puis ce goût de l'inachevé surtout, cet art du non finito. On apprend qu'à 25 ans, Léonard ne finit plus ses tableaux. Alors on a parlé de son perfectionnisme, de son insatisfaction, de l'urgence, des contraintes de temps. On pense aussi, aujourd'hui, que pour lui, la puissance et la beauté, bah, c'était l'atelier, c'était le travail, l'expérimentation. Ça n'était pas le tableau encadré, bientôt muséifié, mais l'étude et la possibilité d'un sens qui reste ouvert. C'est extraordinaire quand même, cette façon de refuser de terminer, de mettre un point final. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous, il n'y a que ça, des points finaux, des jugements définitifs, des formes achevées, c'est-à-dire limitées, des frontières, des phrases lapidaires. Alors quelle plus belle leçon que cette exposition, une leçon qui consiste à nous laisser un goût d'inachevé, un point d'interrogation, un blanc qu'il nous faut remplir ou rêver par la grâce de l'imagination.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui se laisse-t-il volontiers ravir par la beauté. Il est comédien, vous l'avez découvert dans Caméra Café, au cinéma, dans La Vérité si je mens, mais aussi dans nombre de téléfilms à succès. Il s'illustre également depuis plusieurs années au théâtre. Et c'est d'art et d'histoire, figurez-vous, qu'il vient nous parler ce matin, parce que c'est sa passion, tout simplement. Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, quel effet a-t-elle sur vous, la beauté? Parce que je vous sais sensible à ça.
Et oui, en fait, en 2016, j'ai lu un livre d'une illustratrice qui s'appelle Catherine Meurice.
La légèreté. La légèreté,
qu'elle a écrit suite aux attentats de Charlie Hebdo, auxquels elle a échappé miraculeusement parce qu'elle s'était pas réveillée le matin et elle n'a pas pu assister à la conférence de presse. Et au début de son livre, en exergue, elle a mis une phrase de Nietzsche qui dit « Heureusement, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité du monde ». Et cette phrase, moi je suis assez nietzschéen, j'ai beaucoup lu son œuvre parce que je la trouve contradictoire, parce que elle va dans un sens puis elle revient en arrière, parce qu'elle évolue tout le temps. Je sais qu'il a été mal interprété à cause de sa sœur qui a dévoyé son œuvre pour la vendre aux nazis, mais Nietzsche était bien plus immense, bien plus protéiforme, bien plus passionnant et bien plus complexe que ça, comme se doit de l'être un être humain. Et dans cette phrase, heureusement nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité du monde. Ça a été un choc, je l'avais jamais lu, elle est tirée du Gai Savoir pourtant, mais elle m'avait échappé à l'époque où je l'avais lu. Elle m'a tellement bouleversé que depuis 3-4 ans, même si je continue à aimer l'information, et me passionner pour la marche du monde, la politique éventuellement, les faits divers, etc., je ramène décidément tout à l'idée que c'est seulement la beauté, la recherche, la prospection vers la beauté, vers la légèreté, vers la connaissance, vers le savoir des autres, qui me permet de souffler, qui me permet d'espérer, qui me permet de garder un peu de joie. Et j'ai trouvé ce livre merveilleux parce que pour se guérir de cette douleur gigantesque qui la ravage, qui la submerge, qui la fracasse totalement, elle va vers la beauté, elle va à la Villa Médicis, elle va à Rome, elle va en comme une sorte de guide, c'est comme un guide du routard de la légèreté. Pour mieux accepter le monde tel qu'il est. Et moi, ça m'a bouleversé tellement qu'aujourd'hui, quand vous m'avez demandé de chercher un sujet d'actualité, j'ai choisi Vinci, parce que j'ai vu l'expo, évidemment, parce que je me suis dit, en parlant de Vinci, on parle aussi du monde, de sa recherche, de son esquisse, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et que finalement, il n'y a que ça auquel on peut répondre, parce que tout le reste est affaire de spécialistes et d'expertise, et je ne l'ai pas.
Alors, quel lieu est-ce que c'est, un musée, pour vous, Bruno Solo? C'est un lieu de résistance, tout simplement?
Oui, c'est un lieu de résistance. On a longtemps dit que c'était une sorte de cimetière de l'art. Je ne crois pas. Je crois que c'est un lieu, effectivement, où la curiosité, qui est la seule qualité qu'un être humain puisse revendiquer, est mise en avant. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de rechercher ce que nous sommes, ce que nous allons devenir au travers de ce que nous raconte un musée.
Et ça vous apaise? Vous n'avez plus de colère?
Oh si, si, parce que moi je tiens à être en colère, j'y tiens ma colère, mais je veux mieux là en cerner les si ce n'est les limites, en tout cas les raisons, et je veux que ma couleur elle soit comme les certains dessins de Vinci, qu'elle soit sfumato, oui. Qu'elle soit pas totalement encadrée, oui. Que cette couleur puisse se diffuser pour qu'elle puisse aussi parfois se transformer en joie de vivre aussi quand même.
Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui?
Ce qui m'a toujours mis en colère, c'est, alors je le définissais pas avec ces mots-là quand j'étais plus jeune, mais j'ai eu très vite le sentiment que ce qui m'a toujours mis en colère, c'est la paresse intellectuelle. C'est que on s'arrête à des solutions simples pour des problèmes complexes, qu'on n'ait pas la volonté de se demander si nos malheurs, notre mal-être, nos problèmes tout simplement du quotidien, ce qui nous fait chier, n'est pas un peu plus complexe que simplement répondre à « ils nous font chier avec leur grève » et c'est toujours eux qui ont du boulot, etc. Et ça, évidemment, c'est inhérent à la culture et à l'éducation merveilleuse que j'ai reçue de mes parents, sans aucun doute, mais très vite, ça a été la première chose qui m'a mis en colère, c'est les raisonnements hâtifs, c'est les poncifs, les lieux communs, tu sais, tous ces trucs qui font, vous savez, pardon, toutes ces choses qui font qu'on est de toute façon, qu'on trouve des solutions. Moi, je crois que les certitudes nous figent et que les doutes nous font avancer.
Mais c'est ça qui me frappe chez vous, à chaque fois que je vous rencontre, Bruno Solo, c'est ce questionnement sans cesse, cette immense sensibilité au monde. Comment ça s'est développé, ça? D'où ça vient? Dans quelle famille? Vous avez grandi?
J'ai grandi dans une famille où les choses étaient dites, où les questions qu'on se posait, on pouvait se poser les questions et attendre des réponses. Elles valaient ce qu'elles valaient, parce que mes parents n'étaient pas plus ou moins que d'autres, mais en tout cas, ils avaient le courage de répondre aux questions les plus complexes qu'on pouvait leur poser, que ça soit les premières questions sur la sexualité, les questions sur l'état du monde, sur le fait que dans la rue, on voit une image qui nous choquait ou qui nous interpellait. La parole était libre, et puis mes parents étaient effectivement des voyageurs, étaient des gens curieux. Je dis étaient parce qu'ils sont disparus récemment, puisque je les ai perdus coup sur coup sur les deux années qui viennent de passer. Ça a été terrible pour ma sœur et moi, et pour tous ceux qui les ont aimés, bien entendu, ma propre famille, ma femme et mes enfants, mais c'est vrai que c'était des gens qui étaient tout simplement à l'écoute de ce que nous étions, et qui, quand ils ne pouvaient pas répondre, ils disaient, écoute, forge-toi ta propre idée, et ça m'a donné ils étaient sensibles, oui, et ça m'a donné, moi, une sensibilité très forte, à une empathie, j'aime profondément les gens, et après, je veux pouvoir, après les... si ce n'est les abandonner, mais après les laisser tomber une fois que j'ai... j'ai pas d'a priori sur les gens, mais après je peux avoir un avis sur eux dès lors que je... Mais je veux les connaître avant de pouvoir me faire un avis.
Ils ont été des modèles d'engagement aussi.
Oui. Oui, il y a des modèles d'engagement. Parce que ils sont engagés dans... Mon père, par exemple, il était ouvrier dans le bâtiment. C'était un homme érudit, mais totalement autodidacte, mais qui a toujours pris la décision de rester ouvrier, même lorsque, parce qu'il était OHQ, cet ouvrier hautement qualifié, il était staffeur, il travaillait le plâtre. Il faisait des moulures dans les plafonds, des corniches, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un à qui on a souvent proposé de faire, d'être patron, de monter son entreprise. Il a toujours refusé. Il avait lui aussi cette phrase nietzschéenne qu'on a découvert plus tard ensemble, qui était, il m'est odieux de suivre autant que de guider. Ni être un panurge, ni pour autant se sentir un chef. Quant à ma maman, quand mes parents sont séparés, sans jamais divorcer, elle, tout de suite, le premier réflexe qu'elle a eu pour gagner un peu sa vie, pour croûter, quoi, c'était d'aller travailler dans les librairies. Et elle s'est fait engager dans des librairies en tapant à la porte, alors je sais pas si ce serait possible aujourd'hui, en disant, bonjour, j'adore lire, j'ai mon avis sur certains auteurs, j'ai mon avis sur certains trucs. Et ce culot, cette audace et cette légèreté, cette désinvolture vis-à-vis de la culture, qui n'était pas quelque chose de grave pour elle, lui a permis de travailler un nombre d'années incalculables dans des librairies et d'avoir effectivement sa culture très très personnelle. Mon père avait un rapport un peu plus grave à la culture, ma mère avait un rapport plus léger à la culture, et c'est ce mélange des deux qui fait que ma sœur et moi, par exemple, avons effectivement cet enthousiasme pour l'idée d'apprendre.
Et puis il y a les voyages aussi que vous mentionniez, un voyage notamment aux États-Unis et au Mexique que vous avez fait avec votre père justement à la fin des années 70. Quelle initiation est-ce qu'il a été ce voyage, Bruno Solo?
Il est parti en plus d'un constat assez marrant, parce que moi, quand j'étais, donc on est en 76-77, je reviens de l'école et je lui fais part du fait que des copains, des copines n'arrêtent pas de me dire « les parents ils font chier, ils comprennent rien », etc. Pas tous, mais une proportion suffisamment conséquente pour que j'imagine que c'était la norme. Donc moi, pour pas être trop dans la marge, je dis « ouais, pareil, mon père me fait chier, ma mère elle comprend rien ». Et je rentre à la maison et je fais part de ce constat un peu marrant à mon père. Et il me dit « mais c'est bien de rentrer en conflit, c'est normal, il faut savoir un peu distendre les liens avec les parents », enfin il me sort des trucs comme ça. Et puis il me dit « tu sais quoi, on va partir en voyage ». Et une nuit on va partir en voyage et puis comme ça on va apprendre à se connaître. Alors comme il n'avait pas beaucoup d'argent, c'est vrai que le voyage a été un petit peu comme ça, un peu à l'arrache. Hein. On dormait quand on dormait, on mangeait quand on mangeait. Mais ma maman et ma sœur auraient pu venir avec nous, mais ma sœur était vraiment, elle a 5 ans de moins que moi, elle était vraiment beaucoup plus petite, et ma maman, sachant comme dans quelles conditions on allait voyager, a préféré qu'on fasse le voyage seul. Ça a été quasiment un voyage initiatique.
Mais c'est ça, en quoi ça vous a transformé, en quoi ça vous a changé?
Bah parce que beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ce voyage. Enfin, une grande partie de ce que je suis, de ma manière de voir le monde, je le dois à ce voyage, parce qu'il était, c'était pas un voyage confortable. C'était un voyage où il fallait sans cesse réfléchir à la manière dont on allait l'exécuter chaque jour. C'était un pas devant l'autre, quoi. Et on était dans une sorte de bagnole un peu brinque-ballante qui était un vieux car combi Volkswagen qui tombait en panne sans arrêt. On dormait parfois chez l'habitant, on dormait là où on pouvait dormir, et puis voilà. Et donc il était très c'était ce qu'on appelle vraiment un voyage initiatique. On allait à la rencontre des gens. On allait, aux États-Unis c'était plus civilisationné, si je peux me permettre ce barbarisme, et au Mexique et tout c'était plus barbare justement à et tout. Et c'était formidable, parce que, et puis il était long, quoi. On est parti presque 3 mois, quoi.
Celle qui ne transforme rien dans cette mission, qui ne change rien non plus. Peut-être que vous la connaissez, Bruno. Quelque chose me dit que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité qui se contente de mettre les costumes d'autres sur soi, mais sans avoir la voix de celle qui chantait ça. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 30 octobre?
D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie et de style, le remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire. Alors ça, c'est mon plaisir personnel.
Go, go Giono, à la veille des commémorations du cinquantenaire de la disparition de l'écrivain provençal, le MUCEM de Marseille consacre dès aujourd'hui une rétrospective à Jean Giono. Pour la toute première fois, le musée expose la quasi-totalité de ses manuscrits, orchestre un dialogue avec près de 300 œuvres et documents, des archives familiales de l'écrivain, jusqu'au film qui l'inspira à Pagnol ou à Rapneau notamment. À la bien.
Votre cola, avec ou sans patate?
La comédienne Annie Callan s'est éteinte lundi à Paris. Elle avait 94 ans. Elle restera comme l'une des actrices de second rôle les plus vues du cinéma français depuis le milieu du XXe siècle. À l'aise à la scène comme à l'écran, elle avait remporté 2 fois le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle pour Tailleur pour dames en 1994 et La chatte sur un toit brûlant en 2001. Au cinéma, on l'avait notamment vue dans Hibernatus, La gifle ou Trois hommes et un couffin.
Je m'appelle Ferhat Alani. Je suis français et irakien. En 1989, j'ai 9 ans.
Ça sent le succès. Hier soir, les prestigieux prix Albert Londres 2019 ont été révélés. Dans la catégorie livre, c'est le puissant roman graphique Parfum d'Irak de Ferhat Alani qui a raflé la mise, coédité par Nova et Arte Éditions. L'ouvrage est composé de 1000 tweets de l'auteur franco-irakien qui raconte en peu de caractères ses mémoires de grand reporter. Dans le même temps, les journalistes Benoît Wittkim du Monde et Marlène Rabault ont respectivement remporté les prix de la presse écrite et de l'audiovisuel. Et enfin mercredi, le Non Finito ciné à gogo, car aujourd'hui dans les salles obscures, on se laisse piéger par Le Traître, portrait virtuose d'un repenti de Cosa Nostra, signé Marco Bellocchio. On se met debout sur la montagne avec Sébastien Bedbeder qui nous embarque dans les alpages pour une comédie loufoque et réussie. Et sinon, Halloween oblige, on chasse le mort-vivant dans Retour à Zombieland, la farce gore et gaulerie de Ruben Fleischer. À la bonne heure. Et Bruno Solo, invité de Boomerang ce matin pour nous parler d'histoire, à l'occasion de la parution de La Guerre des Trônes, un livre adapté de la série documentaire du même nom à laquelle vous prêtiez votre voix, Bruno, qui était diffusée sur France 5, un livre dont vous avez écrit la préface. L'histoire, en fait, vous avez toujours aimé ça. Quelle matière est-ce que c'était pour vous?
C'est quand même beau, une matière qui s'appelle histoire. Rien que ça, quoi. Tu vois, t'arrives en cours, on dit aujourd'hui, histoire. On grandit avec ça, tous les petits enfants, quand ils ont la chance d'avoir des parents ou des proches qui leur racontent des histoires, il n'y a rien de plus joli. Les petites histoires qui racontent la grande qui se nourrit de la petite. Moi, je sais pas. Et j'ai eu des profs d'histoire plus ou moins intéressants, mais j'en ai eu un particulièrement, qui s'appelle Monsieur Aidant, qui a été, en plus, un nom pareil, tu vois, on peut pas faire plus altruiste, tu vois, mais qui s'appelle Histoire, il s'appelle Aidant. Et il était formidable. J'adorais comment il se mettait en scène. J'adorais comment, tout d'un coup, il laissait tomber le manuel sur le côté, sur son bureau, et qu'il nous regardait, et qu'il nous racontait l'histoire, et qu'il nous faisait vivre. Et c'est vrai que j'étais déjà préparé parce que chez moi, donc, on en parlait beaucoup. J'aimais l'histoire. Je voyais mon père et mes parents, et puis je regardais Alain Decaux à la télévision. C'est quand même dingue d'imaginer que j'ai regardé un type qui avait une carafe d'eau et des diapositives qui lançait de manière très empirique tout seul en appuyant sur un bouton. Il loupait une fois sur deux, et on voyait juste des diapositives arriver en noir et blanc derrière lui, et il racontait l'histoire à un bureau pendant une heure et demie.
Mais vous auriez pu être prof d'histoire.
J'aurais adoré. Ça a été le premier truc dont je me suis dit. Tiens, ça c'est un boulot qui me plairait bien quand j'étais dans des états de flânerie, parce que j'ai toujours été un flâneur et je le suis toujours, mais il m'arrivait en classe d'être flâneur aussi, et quand je regardais mon prof d'histoire, je me dis tiens, ça c'est un boulot que je pourrais faire. Déjà j'aime l'histoire, en plus je retenais assez facilement, j'avais cette chance de retenir assez facilement les dates, les événements, d'arriver à reconstituer le puzzle chronologique de l'histoire. Donc je me suis dit voilà, et puis après je suis passé à autre chose.
Et vous trouvez qu'on l'apprend assez au sérieux, l'histoire aujourd'hui, Bruno Solo, qu'on lui accorde assez de place?
Je sais pas, je suis plus à l'école, mais il me semble quand même que en France, effectivement, il y a une passion quand même pour l'histoire. Alors évidemment, après, il y a autant d'histoires qu'il y a d'histoires, de singulier, elle est singulière et plurielle l'histoire, et ça c'est parfois le problème. Il faut faire confiance aux historiens qui sont le plus proche possible de ceux qui ont subit l'histoire plus que ceux qui l'ont vécu. Moi, c'est vrai que dans l'émission que je fais sur France 5, où je ne suis pas qu'une voix, hein, parce que je suis physiquement présent dans l'émission, et effectivement, nous parlons de l'histoire de l'Europe au travers de ceux qui l'ont construite politiquement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi au travers de... C'est pour ça que la période de la Commune m'intéresse, parce que ceux qui ont fabriqué l'histoire, mais de l'intérieur.
Mais j'ai l'impression, voilà, à vous entendre, que ça relève d'une mission de service public, pratiquement.
Oui. Pour de toute façon, déjà, c'est du service public, hein, c'est sur France 5, comme ici, on est sur France Inter. Donc oui, bien sûr que c'est service public. Je crois qu'effectivement, cette grande banalité, mais qu'il s'agit de rappeler à tous les gosses qui pourraient être désintéressés par l'histoire, c'est que on apprend qui on est et ce qu'on est susceptible de faire grâce à ce que d'autres ont fait, leurs erreurs comme leurs réussites. Mais nom de nom, c'est vraiment important, l'histoire. Et puis quand elle est bien racontée, c'est absolument passionnant, quoi.
Et pour le plus grand nombre aussi, quel regard est-ce que vous portez sur la télévision, vous d'ailleurs, Bruno Solo, vous qui avez commencé par la télévision?
Ouais. J'aime bien la télé, moi.
Vous la regardez encore?
Ah oui, oui. Alors moi, pour le coup, oui, je la regarde parce que je suis absent des réseaux sociaux, je vis pas sur Instagram, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de Twitter, j'ai rien de tout cela.
Et vous retrouvez la même curiosité que celle que vous évoquiez?
Oui, oui, oui. Je trouve que quand on sait la regarder, c'est Chabrol un jour qui disait la télévision, qui était passionné de télé, il regardait tout, hein. Il pouvait regarder des émissions de jeux sur TF1 avec la gaffe et des trucs comme ça. Et il disait, mais il pouvait aussi après regarder, j'imagine, des documentaires et des films en noir et blanc sur TCM pour pas leur faire de la pub, parce qu'il y a tout simplement des films en noir et blanc, des vieux films de Ford, de Ozu et de Fellini ou de Truffaut. Et ça, c'est génial. Il faut la regarder à bonne distance. Il faut considérer qu'autour, il y a une vie, que c'est un meuble. Si vous avez la gueule plongée dans la télé comme on l'a dans les écrans, effectivement, on voit plus ce qui se passe autour. Si vous la regardez à une bonne distance et la considérez comme un meuble, vous la regardez, mais vous voyez qu'autour de ce meuble, eh bien, il y a une bibliothèque, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, il y a votre chat qui passe devant la télé. Et ça, quand tu la regardes à bonne distance, c'est bien. Et la télévision, elle est quand même plurielle.
Ou alors il faut être à l'intérieur de la télévision.
Ah, il faut être à l'intérieur.
Jouer la comédie, justement. Ouais. Dans quelle mesure c'est une façon pour vous d'assouvir votre curiosité?
Parce que être autre chose que soi de temps en temps, déjà c'est très confortable. Deuxièmement, c'est passionnant. Et puis pouvoir faire vibrer les textes de gens qui ont été plus, enfin merveilleux, qui ont repensé le monde en voulant le changer, en tout cas, ou en voulant le proposer d'une autre manière, c'est formidable. Jouer du Feydeau, jouer du Molière, jouer du Beckett, jouer même des choses plus contemporaines. Hein. Là, je cite pour que ça parle à tout le monde.
Mais quand est-ce que vous avez voulu devenir comédien, Bruno Solo?
Bon, je sais pas. Après que j'ai compris que je pourrais jamais être chef d'orchestre, je crois.
Et pourquoi vous ne pouviez pas être chef d'orchestre?
Parce qu'il fallait être super bon en maths et que moi, en solfège, j'étais très mauvais en musique, donc je suis devenu batteur. C'est très dégueulasse pour tous les batteurs, parce que les batteurs sont souvent des grands musiciens.
C'est particulier, vous parlez en ancien batteur. Enfin bon, calmons-nous.
Ouais, mais moi aussi, je suis batteur, vous savez. Et c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que j'ai commencé à m'intéresser au solfège, j'ai vu que la rigueur du solfège ne correspondait pas à ma manière de, un petit peu, je suis un picoreur de culture, moi. J'adore picorer.
Ça veut dire qu'accéder à la reconnaissance, c'était pas quelque chose qui vous animait forcément?
Ah non, je pensais même pas. Et puis, il faut pas penser à ça. Si vous êtes animé par l'idée que vous allez être reconnu et tout, c'est même pas la peine d'envisager une carrière artistique. Mais parce que c'est merveilleux de pouvoir paresseusement se dire, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh ben, je vais raconter celle des autres. Parce que c'est un petit peu ça, quand même. Vous avez moins de responsabilités quand vous êtes comédien, en fait. Moi, quand je joue, j'ai moins de responsabilités que si c'était moi qui avais créé un personnage de toute pièce. On l'a créé pour moi et je n'ai plus qu'à le faire. Évidemment, je caricature un petit peu, mais c'est très confortable d'être comédien. Je vais même dire quelque chose un peu plus grave. Lorsque j'ai perdu mes parents, donc récemment, le fait chaque soir d'être un homme, je jouais une pièce avec Isabelle Carré qui s'appelait Baby, le fait chaque soir de pouvoir jouer un personnage qui venait de perdre son père dans la pièce, eh bien, me sortait de la douleur gigantesque qui était de l'avoir véritablement perdu le mien. Parce que l'espace de pendant 2 heures, ma douleur n'était plus la mienne. Effectivement, quand le rideau fermait, à nouveau j'étais submergé. Mais pendant ce moment-là, il était plus confortable pour moi d'être un acteur qui jouait à avoir perdu son père qu'est d'être un type derrière un guichet dans n'importe quel boulot, ou d'être un commerçant, ou d'être un flic, ou d'être un je ne sais pas quelqu'un qui n'est que dans sa propre vie et qui vit sa douleur de tous les instants. Moi, pendant un certain moment, je pouvais la transcender au travers d'un personnage. Mais je vous assure que parfois, c'est confortable, pour des choses graves comme pour des choses légères.
C'est bouleversant ce que vous dites. Alors on va se piquer un peu de beauté, ensemble on écoute Fleetwood Mac, Songbird, sur ce si bel album qui est Rumours en 1977, vous êtes sur France Inter.
Magnifique.
Avec Bruno Solo, vous écoutez Boomerang, c'est très très beau.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ouais, c'est le mec d'à côté, vous savez. C'est le boy next door qu'on croise devant les boîtes aux lettres le matin, à l'aube, après qu'il a promené le chien. Il n'a pas encore bu son café, il est un petit peu décoiffé. Il a du mal à parler, mais il vous sourit. La journée commence bien, avec son œil de lutin et son air poil à gratter. Avec son col roulé ce matin, Bleu Marine, le comédien Bruno Solo, invité de Boomerang pour parler de cinéma, quand même. Avec quel film est-ce que vous avez grandi, Bruno?
Oula, alors avec beaucoup. Il y avait une tradition chez nous, à la maison, c'est que quand on était petit, mes parents, le samedi soir, allaient voir, donc là on est dans les années 70-80, allaient voir, après on était allé avec eux, allaient voir le dernier film italien. C'est-à-dire c'était la grande période avant que Berlusconi détruise le cinéma italien et qu'il ne reste plus que quelques résistants comme Bellocchio ou l'immense Nanni Moretti. On allait voir Affrosser les méchants, Pain et chocolat, L'argent de la vieille, Casanova, un adolescent à Venise. C'était, alors ils allaient voir autre chose, mais je me souviens qu'il y avait une gourmandise de mes parents aller voir le dernier film italien qui sortait en France. Et moi, le cinéma, je le dois à Claude Jean-Philippe, qui était l'homme qui présentait le cinéma après Bernard Pivot, après Apostrophe, qui était la messe, hein, pour nous, Apostrophe. Et on regardait Apostrophe. Et après, il y avait Claude Jean-Philippe, le vendredi soir, qui présentait le cinéma du samedi soir. C'est comme ça que j'ai découvert Nosferatu. C'est comme ça que j'ai découvert le cinéma japonais, le cinéma italien, les vieux films français, les films de L'Herbier, de Renoir et les films américains. J'ai tout, toute ma culture cinématographique est venue de là. Et après, tout seul, en allant au cinéma.
Et qu'est-ce qu'on apprend du métier d'acteur, Bruno Solo, en regardant des films? En quoi ça enseigne?
Oh, bah quand même, par mimétisme, on est les mimes, hein, souvent les comédiens. Donc regarder, par exemple, le geste d'une actrice ou d'un acteur ou une respiration et tout, c'est déjà les premiers cours un peu artisanaux, enfin les premiers cours un petit peu comme ça à l'arrache qu'on prend avant de comprendre comment ils sont parvenus à faire ça et de rencontrer ou des acteurs ou des professeurs. Alors moi, en plus, je suis un petit peu à part parce que je suis autodidacte. Hein, moi, j'ai jamais fait le conservatoire.
Donc, c'est comme ça que vous êtes formé?
Je crois beaucoup, ouais. Mais même quand je faisais du sport, quand je jouais au tennis, j'étais toujours dans l'idée d'imiter le geste qui me plaisait. Donc moi, j'imitais McEnroe. Alors évidemment, je jouais pas comme McEnroe, mais je m'en foutais parce que quand je jouais, j'étais McEnroe.
Alors quel acteur est-ce que vous imitez? Un acteur qui serait l'équivalent de McEnroe?
Il y avait quelques acteurs comme ça. J'avais une passion dans la comédie pour le déplacement de Funès, par exemple. J'étais vraiment encore, quand dans Caméra Café, je me suis beaucoup inspiré de sa gestuelle, de son rythme, oui, de cette manière très saccadée de se déplacer. Et après, pour des rôles plus graves, des tragédies comme j'avais pu en faire depuis quelques années, il y a des acteurs qui m'inspirent beaucoup, comme Michael Caine, par exemple, ou comme il y en a tellement. Mais vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Les acteurs qui m'inspirent le plus, c'est les actrices, moi. Je crois que les plus grands acteurs du monde sont les actrices.
Ouais. J'aimerais, si vous voulez bien, Bruno Solo, qu'on écoute une voix. C'est pas la voix d'un comédien, ouais, pas d'une actrice, pas d'un réalisateur, c'est un écrivain. Ouais. Sa voix, vous la connaissez, c'est celle de Georges Simenon en novembre 1981 dans l'émission Apostrophe que vous citiez de Bernard Pivot.
Je suis un instinctif, je ne suis pas du tout un intellectuel. Je n'ai jamais pensé un roman, j'ai senti un roman. Je n'ai jamais pensé un personnage, j'ai senti un personnage. N'est-ce pas ? Je n'ai jamais inventé une situation. La situation est venue lorsque j'écrivais un roman, mais je ne savais pas du tout où mon personnage allait me mener, c'est lui qui me menait. Et je vivais pendant d'abord 11 jours, et puis à la fin 7, dans la peau de ce personnage.
Simenon,
passion.
80. Passion.
Passion pour Simenon.
C'est vous qui vouliez entendre sa voix pour une solo. Pour quelle raison?
Bah déjà, c'est les 30 ans de sa mort. Donc il y a beaucoup de manifestations autour de son œuvre, de sa mémoire, en France comme en Belgique, à Liège, dont il est où il est né. Moi, je suis un de ses préfaciers. J'ai l'honneur d'avoir écrit l'une des préfaces des 9 volumes de toute la réédition des Maigret. Mais je ne parle pas de ses romans durs, mais des Maigret avec Tavernier, avec Douglas Kennedy et des gens comme ça. Vous imaginez l'honneur quand on m'appelait. Frank Buisk, un de mes écrivains préférés, je suis en dingue de l'œuvre de Frank Buisk, et on a fait connaissance il n'y a pas très longtemps, et là tout d'un coup je découvre qu'il est un des préfaciers de Simenon. J'étais comme un dingue, et donc j'ai parlé de ma rencontre avec la littérature, parce que ma rencontre avec la littérature, c'est en lisant le dos, on appelle ça la tranche, mais en fait on dit le dos d'un livre, et j'ai vu ce nom Simenon. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet oxymore incroyable, qu'est-ce que c'est que ce nom qui dit une chose et son contraire, qui s'assure assume et puis qui fuit et tout. J'ai ouvert, j'ai découvert donc ce qui était cet homme, si mais non, oui mais pourquoi pas. J'ai lu et je me suis dit, c'est donc ça la littérature. Avant, j'étais au Club des Cinq, j'étais à la Comtesse de Ségur, et j'ai découvert la littérature grâce à Simenon. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est Dostoïevski, Simenon, c'est les deux plus grands sons, à mon avis, bien entendu, ou plus grands sondeurs de l'âme, et les deux des plus grands écrivains du XXe siècle.
Il se trouve que vous avez joué dans l'adaptation d'un roman de Simenon, c'était La Mort. Alors, je pense à La Mort de Belle, moi, ouais. Que j'ai vu. Le titre du téléfilm, c'était Jusqu'à l'enfer. À quoi est-ce qu'on reconnaît un personnage écrit par Simenon?
Nu. C'est un homme nu, un personnage de Simenon, c'est quelqu'un qu'on doit comprendre mais pas juger, qu'on doit regarder évoluer, s'enfoncer, se débattre, etc. Il faut le jouer avec le plus de... Pour s'y tenter qu'il faille jouer des personnages autrement qu'avec sincérité, mais là encore plus, les personnages de Simenon sont des innocents en main pleine souvent, mais sont des innocents. Et même lorsqu'ils sont coupables, ils sont innocents. Ils sont toujours victimes d'un contexte, etc. C'est des personnages absolument passionnants à jouer. C'est des personnages ordinaires plongés dans des situations qui les dépassent. Et ces hommes comme ces femmes, il faut avoir lu La Vérité sur Bébé d'Onge, qui est un des plus grands romans de Simenon, pour voir à quel point cet homme a tout compris des tourments et de la difficulté d'être ce que nous sommes dans un monde qui parfois nous broie ou nous dépasse.
Merci tellement Bruno Solo, merci tellement de nous avoir rendu visite ce matin. On vous attend au cinéma, à la télévision, au théâtre évidemment. On vous verra bientôt en janvier dans la nouvelle comédie de David Foenkino, ce théâtre de Paris, mise en scène par Nicolas Briançon. Merci pour toutes ces questions aussi. Tout de suite les médias, Dorothée Barba, juste après ça.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup sa part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, 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 je veux être seul. Seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na.
Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre.
Dilemme, Lou Sunday Yakuza sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Dorothée, l'instant M.
Exactement, et moi je vous dis à demain, Augustin Trappenard.
Moi aussi, je vous dis à demain, ma chère Dorothée, salut.